Fleur de sel, l'hebdo de l'écologie intégrale, une émission qui parle de la sauvegarde de la maison commune.
Vous êtes le sel de la terre.
Fleur de sel, une émission pour répondre à l'appel du pape François à la conversion écologique.
Si le sel s'affadit, avec quoi le salera-t-on ?
Fleur de sel, une émission proposée par le groupe Parole de chrétiens sur l'écologie. Avec cette semaine, Olivier Tempéro.
Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune. Mais inutile d'aller plus loin, vous connaissez très bien cette parabole. Bienvenue dans votre émission d'écologie intégrale Fleur de sel. Alors nous avons traversé le confinement et nous sommes toujours là, en espérant que nous pourrons vite retourner enregistrer au studio pour vous offrir un son de qualité optimale. Cette semaine, nous terminons notre triptyque sur homme, société et religion. Alors jusque-là, nous avons remis au premier plan la dimension de la croissance intérieure de l'être humain. Nous avons dit à quel point cette croissance intérieure était une dynamique incontournable pour l'ensemble de l'édifice société. Et enfin, nous avons questionné les ressorts des modes de gouvernance pour établir qu'ils avaient une influence souvent négative sur cette quête de croissance du cœur de l'homme. Mais les structures politiques ne sont pas les seules entités qui modèlent l'être humain. Et nous en arrivons à nous demander: où est l'Église dans tout ça? Quelle a été son influence vis-à-vis de l'homme? Le sujet est sensible et je voudrais parler sans donner l'impression d'asséner des vérités. Mon objectif est simplement d'ouvrir des portes. Dans l'impasse actuelle où le monde se trouve, on y gagne à tout revisiter. C'est là, d'ailleurs, une des grandes exigences de l'écologie intégrale. Impossible pour quiconque d'avoir une lecture du monde exempte de points aveugles. Et je peux vous témoigner comme le contact avec des idées qui me faisaient fuir il y a quelques années m'est aujourd'hui nourrissant. Tout simplement, je m'inscris dans le sillage du pape et de sa forte invitation au dialogue lucide, humble et sincère. Il écrit au paragraphe 138 de Laudato Si: « Cela demande de s'asseoir pour penser et pour discuter avec honnêteté des conditions de vie et de survie d'une société. » Alors l'Église, où en est-elle? Je m'appuie encore sur les travaux d'Henri Guillemin pour vous dire qu'elle est tiraillée entre deux versants opposés. En tant que témoin du message révolutionnaire et libérateur du Christ, elle s'applique à diffuser l'invitation évangélique de réalisation de l'être humain. Ce versant est très présent dans la doctrine sociale de l'Église et notamment dans Laudato Si. Et puis, en tant qu'institution du monde, elle court le risque permanent de se lier aux institutions dirigeantes qui, comme développé la semaine dernière, recherchent souvent l'aliénation plutôt que l'émancipation. D'où le récit initial du fils prodigue que vous aurez reconnu. L'institution Église, comme toutes les institutions humaines, peut aussi s'égarer sur les chemins du monde. Bernanos exprime très bien la tension entre ces deux versants dans le journal d'un curé de campagne. Je vous invite à redécouvrir l'œuvre ou à écouter les émissions de Guillemin que je mettrai dans le podcast de l'émission. Ce second versant, l'Église s'y est laissée glisser de nombreuses fois. Voltaire, par exemple, était très clair à ce sujet. Dans son projet de société, il pensait souhaitable d'inféoder la religion chrétienne en faisant de Dieu un instrument de contrôle du peuple. Il proposait en effet d'admettre, je cite, « un Dieu rémunérateur et vengeur, qui récompense les bonnes actions cachées et qui punit les crimes secrets ». Plus récemment, Georges Bernanos a été très marqué par la période franquiste. Dans Les grands cimetières sous la lune, il critique fermement le comportement de l'Église pendant cette période. Un petit extrait.
Et comme les évêques d'Espagne disaient que la lutte de Franco se justifie par la défense légitime des propriétaires. Là, on se leur dit légitime défense des propriétaires, mais c'est très bien, seulement je me demande, seigneurie, pourquoi vous distinguez entre ceux qui ont le droit et ceux qui n'ont pas le droit de défendre leur propriété à coups de fusil? Vous autorisez ces messieurs à défendre à coups de fusil leur maison, même s'ils en ont plusieurs, mais vous ne permettez pas la même chose aux autres qui défendent leur salaire, même qui n'ont que ça pour vivre. Et puis quand les affamés remuent, vous exigez contre eux, vous bénissez à leur égard, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les arguments à répétition qui sortent des mitrailleuses.
Dans le spectre et la croix, les mots sont encore plus durs. Trop durs sûrement pour passer à l'antenne. Pour autant, la violence exercée est bien souvent la réaction à une violence subie. Et d'ailleurs, à très grands traits, on peut relier ces deux épisodes. Le lien entre religion et politique, notamment exprimé par Voltaire, a engendré au fil des ans une Église de plus en plus éloignée de sa vocation évangélique. Cela est apparu d'une violence intolérable pour les républicains espagnols. En 1936, des milliers de religieux le payent de leur vie, massacre sanglant et abominable. Pas étonnant alors que l'Église choisisse le camp de Franco. Et aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui haïssent l'Église pour cela. Et on pourrait continuer ainsi longtemps, sauf à profiter, encore une fois, des appels incessants du pape à un dialogue qui nous permettrait de nous élever à la hauteur des nouveaux enjeux de notre temps. Et pourquoi pas, alors, oser se servir des critiques qui nous sont faites pour mieux connaître certains de nos travers. C'est ce que je vous propose avec deux extraits d'Henri Guillemin. Partant de la critique que le marxisme a fait de l'Église, il exprime bien, je trouve, ce choix que peut renouveler l'Église vers l'épanouissement humain. Premier extrait sur le lien homme-religion.
Et qu'on ne nous dise pas qu'il s'agit d'aliénation. C'est la vieille objection des marxistes qui disait « Vous connaissez Dieu, vous reconnaissez l'existence de Dieu, vous êtes aliénés. » Mais non, c'est le contraire. Étant donné que nous sommes au contraire aliénés par des tas de choses, quand ça ne serait que par le plaisir ou la sexualité ou encore par des aliénations politiques. Tandis que si nous concevons ce que vient de dire le Christ, à savoir qu'au fond de nous-mêmes, il y a une réalité surnaturelle, alors ça devient une saisie de notre substance. Jamais nous ne sommes plus nous-mêmes que si nous adhérons à ce que nous sommes fondamentalement.
Et un second extrait sur le lien société-religion.
C'est pas non plus l'opium du peuple dont parlait Marx. Ah, je comprends bien. À quel point Marx avait raison quand il pensait aux catholiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, les cléricaux sans Dieu. Ceux-là n'y croient même pas, ils servent de la religion pour abrutir le peuple. Alors ça, oui, c'est l'opium du peuple. Mais quelqu'un qui a pris au sérieux le christianisme et qui s'aperçoit que dans le christianisme, lorsque le Christ parle de la justice comme d'une faim et d'une soif, quand un chrétien comprend qu'il ne peut pas se dire chrétien s'il ne lutte pas pour la justice, alors qu'on ne nous parle pas d'opium du peuple.
Je laisse chacun se faire son opinion et je vous livre juste quelques phrases synthétiques de ces trois émissions. D'abord, l'homme est appelé à se réaliser. Pour chacun de nous, c'est le sens de notre vie. Ensuite, la réalisation de l'homme est aussi une absolue nécessité pour que la société fonctionne en harmonie avec l'environnement. Or, les institutions de nos sociétés sont guettées par la tentation d'imposer à l'homme un chemin inverse, et l'Église, notamment, doit rechoisir en permanence le camp de l'Évangile et de son message qui tire l'homme vers le haut. Dans ce contexte interconnecté où chaque acteur modèle et est modelé par les autres, il est bon d'avoir à l'esprit qu'il y a, au-dessus de nos enchevêtrements humains et sociaux, un soleil et une ombre. Et que l'un et l'autre cherchent toujours à s'infiltrer et à gagner par contagion les hommes et les structures. C'est un seul et même soleil qui offre ses rayons aux hommes et aux structures humaines. C'est une seule et même ombre qui cherche à obscurcir les hommes et les structures humaines. À nous d'être vigilants, lucides et volontaires pour remonter peu à peu la pente. Cette série de trois émissions est terminée. La semaine prochaine, c'est Arnaud qui se placera derrière le micro pour vous parler d'un thème qui lui est cher. Bonne semaine, chers auditeurs.